Dieu serait un être immuable, disent certains théologiens. La Bible est plus nuancée que ça sur la question. Certes, la Bible compare souvent Dieu à un solide rocher en granit, bien stable, mais il arrive dans la Bible à ce rocher de marcher. Alors cela peut sembler un peu curieux, Dieu est comme un rocher qui marche par amour pour son peuple, par amour pour l'humanité, par amour pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans un intéressant commentaire d'un chapitre du livre des Nombres. Ce commentaire est intéressant à plus d'un titre. D'abord pour le témoignage de l'apôtre Paul sur la personne de Dieu, sur le salut qu'il nous offre en Christ. Mais ce commentaire de l'apôtre Paul est intéressant aussi pour nous aider dans notre propre lecture de la Bible, pour comprendre un peu comment ces textes étaient lus dans l'Antiquité, lus à l'origine, et ce que la venue du Christ a changé dans la lecture de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, il continue, comme les rabbins de l'époque, à faire une lecture allégorique de la Bible. Nous allons l'entendre. La Bible n'est pas un recueil de vieilles histoires qui concernent le passé, mais tout cela a été écrit pour nous, dit l'apôtre Paul. Ces textes trouvent même leur accomplissement dans notre propre vie, dans notre temps présent, au plus profond de notre être. Mais la lecture chrétienne de la Bible que propose l'apôtre Paul et que vont faire à sa suite bien des théologiens chrétiens, cela nous montre que la lecture de Paul, voilà, évangélise finalement cette lecture juive de la Bible. Non, Dieu n'est pas un Dieu violent, ce n'est pas un Dieu jaloux, ce n'est pas un Dieu tout-puissant ni un Dieu immuable. Non, Dieu ne tue pas ceux qui chutent ou ceux qui critiquent. À la lecture du commentaire de Paul, on va le voir, on remarque que ce n'est pas Dieu qui est la source des tentations, ni des difficultés, ni de la punition, ni de la mort des Hébreux. Paul se démarque donc sur ce point d'une lecture littéraliste de l'Ancien Testament. Selon Paul, Dieu n'est pas source de ce qui nous tue, comme on peut le voir marqué dans les Nombres, mais il nous offre toujours et encore des moyens de nous en sortir. Il est là pour nous donner de la force, pour nourrir notre être en profondeur. Il nous abreuve même de sa propre vie en Christ. Alors je vous propose d'abord d'entendre, dans le livre des Nombres au chapitre 21, ce passage fameux, donc dit du serpent d'airain et puis du cantique du puits. Les Hébreux partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Est-ce que c'est pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable que nous avons à manger. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens ce jour-là en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. Les Israélites partirent alors et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Iye-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, « Waheb en Soufa et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté de l'Ar et s'appuie sur la frontière de Moab. De là, les Hébreux allèrent à Béer, le puits. C'est ce puits où l'Éternel dit à Moïse « Rassemble leur peuple et je leur donnerai de l'eau ». Alors Israël chanta ce cantique « Monte, puits, répondez-lui, puits que les princes ont foré, puits que les gens de bonne volonté ont creusé avec le sceptre, avec leur canne. » Alors du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans la campagne de Moab, jusqu'au sommet du Piga qui s'incline en face du désert. Alors maintenant, je vais vous lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, le commentaire que Paul nous donne de ce chapitre. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous été baptisés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des allégories pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'allégorie et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui semble être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, lui, est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, car, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Éternel, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 33 dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 5 du psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ». ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y trouver une source inédite qui éclaircisse nos voies, qui libère nos conversations, qui nous autorise à écouter et à parler. Donne-nous, entre les pages ouvertes du livre, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde que tu aimes, de voir qu'il n'est pas fini, qu'il est encore en genèse. Donne-nous d'être intrigués, d'être retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais encore de nos existences, de notre temps et de notre monde. Avec ces textes, nous voici en prise avec une histoire complètement surréaliste. Une histoire où l'on voit un puits qui discute, un puits qui est également un rocher qui marche pour suivre les Hébreux dans le désert, dans les plaines, dans les collines, dans les vallées. Dieu est un rocher, nous dit la Bible, et cela donne en partie raison aux théologiens qui affirment haut et fort que Dieu serait immuable. Vu ses qualités, il nous semble que Dieu devrait être totalement immuable comme un solide rocher en granit. Mais en réalité, oui et non, Dieu évolue. C'est aussi surprenant que de voir un rocher qui marche et qui parle, aussi surprenant que de voir un puits qui discute et qui se déplace, lui aussi, mais c'est comme ça. La fidélité de Dieu, oui, est solide comme un diamant. Son amour est stable comme une montagne de granit, mais Dieu est vivant et mobile. Suivons donc la lecture que l'apôtre Paul donne ici de l'exode des Hébreux dans le désert. Je ne sais pas si l'apôtre Paul a jamais pensé que les Hébreux avaient matériellement été nourris par un rocher qui marche, ni qu'ils ont été nourris par de la manne matérielle qui tomberait du ciel. Mais, en tout cas, ce n'est pas cela qui importe à l'apôtre Paul, nous le voyons ici. Il insiste bien pour dire que les Hébreux ont reçu une nourriture spirituelle, qu'ils ont reçu une boisson spirituelle qui coulait d'un rocher spirituel, et que ce rocher, c'était le Christ, le salut de Dieu, qui s'est plus tard incarné dans l'histoire en Jésus de Nazareth. Alors je crois que c'est important quand même de noter cette lecture, ces différents niveaux que nous propose l'apôtre Paul. Il insiste pour dire, pour reconnaître le côté spirituel de cette histoire. Il relie cette histoire comme une allégorie parlant de la vie intérieure de tout homme, quelle que soit la génération. Notre vie intérieure, mais aussi et déjà celle des Hébreux eux-mêmes dans leur cheminement finalement. Puisque dans leur cheminement, les problèmes qu'ils ont avec la tentation, problèmes qu'ils ont dans leur relation à Dieu, c'est bien un problème spirituel. Et donc avec Moïse, Paul nous dit qu'ils ont reçu quatre choses essentielles qui auraient dû leur donner vraiment le salut. Deux baptêmes, nous dit Paul, et deux aliments. Et il nous dit que cela a été écrit pour nous, que nous aussi nous recevons cela. Donc les Hébreux ont été baptisés dans la nuée ardente, nous dit d'abord Paul. Cela évoque cette source de lumière qu'est Dieu qui nous permet de voir clair dans notre monde, de voir de nos propres yeux au-delà des apparences, de voir la vraie valeur de la vie, la vraie valeur des êtres, la vraie valeur des autres qui sont à nos côtés et aussi la vraie valeur de nous-mêmes, de notre personne qui nous déçoit souvent. Ce baptême dans la nuée, c'est une étape de notre création. C'est alors que nous devenons un peu à l'image de Dieu, clairvoyants. Les Hébreux ont été baptisés dans la mer, nous dit Paul. C'est une libération qui nous est ici évoquée, libération de cette partie qu'évoque le Pharaon, les Égyptiens dans la Bible. Mais en fait, bien sûr, c'est une purification de chacun d'entre nous, ce n'est pas l'élimination d'un certain nombre de personnes, car nous avons tous comme tentation d'être, de penser et de vivre comme le Pharaon de l'histoire des Hébreux. C'est la tentation de n'espérer que sur la seule industrie humaine pour nous sauver, d'essayer de construire des pyramides pour avoir la vie éternelle, la tentation de ne voir notre salut que selon cette dimension-là, bonne dimension certes, mais c'est limité, dimension psychologique, dimension biologique, terrestre, et non spirituelle, éternelle, divine. Alors je ne dis pas que les Égyptiens pensaient comme ça, mais c'est ce qu'évoque la figure de l'Égypte du Pharaon, c'est un type, c'est une allégorie, comme le dit Paul. Et donc quand on dit que les Égyptiens ont été noyés dans la mer Rouge, c'est ce qui est égyptien en nous qui est noyé dans ce geste de purification que Dieu nous donne en Christ. C'est le deuxième service que Dieu nous offre selon Paul, après avoir été éclairé, c'est d'être purifié de notre matérialisme, de notre idolâtrie de la matière. Deux services sont encore offerts, deux services qui ne sont plus seulement extérieurs, mais qui sont faits pour nous vivifier de l'intérieur comme une nourriture le fait. Les Hébreux ont été nourris d'une nourriture spirituelle, nous dit Paul. Nous savons que cette nourriture est un questionnement selon la lecture rabbinique de la manne, puisque le mot même de manne, la nourriture que critiquent les Hébreux ici, c'est littéralement en hébreu du « qu'est-ce que c'est que ça ?». Et donc oui, Dieu nous nourrit par un questionnement, par un bon et saint questionnement qui nous fait avancer. Et les Hébreux ont enfin été abreuvés d'un breuvage spirituel à cette source, à ce rocher spirituel qui les suivait dans leur cheminement dans le désert. Ce rocher, c'est donc le Christ. C'est la parole de Dieu réellement présente à nos côtés dans notre vie comme Jésus a marché avec ses disciples, bien réellement. Ce rocher, cette source, ce Christ, c'est la dynamique même de Dieu, c'est le cheminement, c'est la fidélité, c'est la vie qu'incarne, que manifeste le Christ. C'est cela, ce cheminement, cette fidélité, cette vie de Dieu qui s'offre à nous pour qu'elle irrigue notre être, qu'elle lui donne une paix intérieure, qu'elle lui donne une joie et une vigueur vivante et vivifiante. Dieu nous donne donc ces quatre dons spirituels, mais, nous dit Paul, ces quatre dons de Dieu ne suffisent pas à sauver le peuple hébreu, ne suffisent pas à sauver la plupart même des Hébreux. Paul insiste, ils ont bien tous reçu ces quatre dons de Dieu pour les sauver, la lumière spirituelle, la purification, la nourriture du questionnement et le breuvage spirituel donné par le Christ lui-même. Mais il reste la part de liberté de l'homme. Certains croyants se demandent qui sera sauvé ? Est-ce que Dieu pardonne ceci ou pardonne cela ? Comment nous juge-t-il ? Est-ce que voilà, nous sommes inscrits dans le livre de vie. La question n'est en fait pas là. Dieu est au-delà du pardon, nous le voyons dans ce texte, dans cette lecture de Paul. Il aime tout simplement chacun de ses enfants et il ne cessera jamais de tout faire pour donner la vie à chacun de ses enfants, bien entendu. Dieu fait tout pour donner la vie à chacun, sa lumière est offerte généreusement à tous. Tous sont purifiés par le regard positif de Dieu, par cet amour qu'il a manifesté en Christ. Tous ont reçu de lui comme nourriture cette infinie source de bonnes questions que sont les paroles, qu'est la vie du Christ. Et tous ont reçu de lui l'eau vive de l'Esprit. En Christ, tout est accompli par grâce. Mais ce tout qui est accompli en Christ est encore à saisir par la foi, à être vécu par la foi, par le moyen de la foi. Et personne ne peut avoir la foi à la place d'un autre, c'est comme ça. La question n'est donc pas celle d'être inscrit dans le grand livre de vie que Dieu tient au ciel. Notre nom est effectivement inscrit dans le livre de vie. La question n'est pas d'être béni par Dieu. Dieu bénit largement notre être. Il nous bénit vraiment. Mais la question, c'est de vivre de ces bénédictions. La lumière ne vaut que si l'on ouvre les yeux pour voir. Et quand enfin on voit la vraie valeur de la vie, l'incroyable merveille qu'est le moindre des êtres humains, si on comprend le vrai sens que peut prendre une vie humaine par ce souffle que Dieu donne, eh bien c'est très bien si l'on voit ça, si on le comprend. Mais il ne suffit pas de savoir cela, il ne suffit même pas de l'avoir vu de ses yeux. Encore faut-il en vivre, en tirer les conséquences. Et puis peu à peu, jour après jour, que cela irrigue notre vie tout entière. Et pour que cela soit possible, nous dit Paul, tout est une question de foi. Alors encore faut-il s'entendre sur ce que l'on entend par le mot foi. Ce n'est pas une question donc de croyance, ce n'est pas une question même ni d'avoir vu, c'est une question de foi au sens de l'espérance en Dieu, dans le sens de l'attente de ce salut de Dieu, de cette attente confiante pour qu'il puisse nous faire évoluer, que ça change notre être, que ça change notre vie concrètement. La question n'est donc pas d'être au bénéfice du pardon de Dieu, bien sûr que Dieu nous pardonne et nous aime. Mais la question, c'est de laisser infuser en nous cette source de vie qu'est Dieu. La question, c'est d'entrer dans cette dynamique que permet une juste adoration, en fait. Le fond de la question, nous dit Paul, c'est la question de la juste adoration. C'est de fuir l'idolâtrie. Mais peut-être que le mot idolâtrie est trop abstrait, comme nous n'avons pas chez nous un totem en bois que nous adorons, bien sûr. C'est une autre question. Et effectivement, je crois que la question de la juste adoration est bien au cœur de ce texte des Nombres que commente Paul. En effet, les Hébreux étaient d'accord pour demander, oui, que Dieu vienne les sauver, voilà. Mais c'est seulement quand la personne elle-même a un regard d'espérance vrai vers le salut de Dieu, c'est alors que la personne elle-même est individuellement sauvée des serpents brûlants. Et c'est par un cantique, le cantique du puits, que l'on peut vivre de cette source mystérieuse. Alors les serpents brûlants sont une image de nos tentations personnelles qui nous tirent vers le bas, de ces tentations qui nous empoisonnent et qui nous tuent. C'est une image de nos idolâtries finalement. L'apôtre Paul insiste, ces tentations, ces serpents qui nous tuent, elles sont humaines, elles ne viennent pas de Dieu. Et selon Paul, à la différence, oui, du texte du livre des Nombres, ce sont nos tentations qui nous tuent. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui enverrait une punition pour faire une bonne leçon à l'humanité, non. Elle, la volonté de Dieu, elle reste encore et toujours tournée vers la vie de chacun pour l'aider, pour le nourrir, pour le purifier, pour l'éclairer. Mais Paul est bien d'accord avec le livre des Nombres pour dire qu'un simple et vrai regard d'espérance vers le salut de Dieu, nous conserve en vie. Cela, ça reste fondamental. Paul souligne cela en disant que Dieu prépare toujours pour chacun le moyen de sortir de la tentation. C'est ce que nous dit aussi Jésus à plusieurs reprises, en particulier dans le Notre Père. Malheureusement, ce Notre Père est si mal traduit que l'on pourrait penser que c'est Dieu qui nous tente. Alors bien sûr, non. Au contraire, Dieu nous secourt avec ces quatre dons que Paul relève dans l'histoire du peuple hébreu. La tentation, elle sera toujours là, bien sûr. Elle est une faiblesse, voire même une tare qui nous est personnelle. Chacun a ses propres tentations, ses propres faiblesses. Comme le dit Paul, c'est une écharde dans notre chair. Mais nos tentations, elles doivent être et elles peuvent être combattues. Dieu est notre allié dans cette guerre. Dieu nous propose d'aller plus loin encore, à sa suite, pour lui qui est un cheminement de vie, qui est mouvement. La nuée qu'évoque Paul, le premier baptême, eh bien, ça évoque le côté dynamique de Dieu. Ce Dieu qui nous devance dans le désert, finalement, qui nous marque une route. Paul reprend cela un peu plus loin dans cette même première lettre aux Corinthiens, dans le très célèbre Cantique de l'amour. Il nous dit que le cheminement par excellence, c'est de poursuivre l'amour. Eh bien, ce cheminement fondamental, ce cheminement ultime, cet amour qui avance et même qui court en devant de nous, finalement. Ce cheminement, cet amour qui court, c'est Dieu, bien sûr. Dieu est donc en lui-même une dynamique, une mobilité, une course. Mais il est aussi, par amour, dépendant de notre propre mouvement, et donc il n'est pas seulement celui qui court devant et qu'il faudrait poursuivre. Il se fait alors un humble puits, un petit rocher qui marche comme sur ses pattes, pas à pas, derrière nous, pour que nous ne mourions pas de soif sur notre route. Il nous suit même dans nos errements improbables, dans nos routes qu'il n'aurait pas choisies finalement. Poursuivez l'amour et fuyez l'idolâtrie, nous dit Paul. C'est un bon résumé de ce que propose le célèbre et mystérieux cantique du puits du livre des Nombres. Moïse nous dit, ils arrivèrent à Béer, littéralement, ils arrivèrent dans un lieu qui s'appelle le puits. Depuis toujours, les rabbins font eux aussi une relecture allégorique de ce puits, bien sûr. Ils disent qu'il s'agit du puits de la Torah, le puits de la parole de Dieu. Paul reprend ce commentaire et lui-même, il commente cela en disant que c'est le Christ qui est effectivement la parole, qui est l'acte de Dieu pour nous donner la vie. L'Éternel dit à Moïse, rassemble leur peuple, le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Nous rassembler pour espérer l'eau, bien c'est ce que nous faisons ce matin dans l'oratoire ou bien aussi par Internet. Là où deux ou trois sont réunis pour parler de Dieu, les questions prennent alors du relief. Les idoles de nos dogmes étroits ont une chance de se fendiller, d'être mises à bas, à condition bien sûr que l'on accepte de débattre dans un esprit d'ouverture et d'évolution personnelle possible, pas si nous sommes cramponnés à des dogmes éternels que nous voulons imposer aux autres. Alors se rassembler, oui, avec les autres, se rassembler, c'est aussi se rassembler soi-même. C'est attendre Dieu dans sa vie, non seulement par le culte, non seulement de toute sa tête, mais d'y mettre aussi son cœur, d'y mettre sa vie quotidienne, d'y mettre une volonté de changer, de relever la tête. Et de se mettre alors, oui, à chanter le cantique du puits. Tout est au fond une question d'adoration pour se saisir des dons de Dieu. Alors les traducteurs ont essayé de rendre le cantique du puits le moins étrange possible, mais cela lui fait perdre bien de son sens. Littéralement, il est écrit dans ce court cantique, très célèbre et très mystérieux. « Monte, puits, répondez-lui. Puits que les princes ont creusé, puits que les hommes de bonne volonté ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton. » Bon. C'est par grâce que le puits se déplace pour nous accompagner, une grâce inouïe, incroyable, surréaliste. Et jamais Dieu ne se lassera de s'offrir ainsi à notre service pour nous donner le bonheur et la vie de, comme une eau fraîche, finalement, quand on marche dans le désert brûlant. Mais pour boire de cette eau, encore faut-il une foi simple et toute concrète. D'abord, il faut ouvrir la bouche et prier ce chant. Monte, monte dans nos membres, dans ma vie, dans mon cœur. Monte-toi, présence de Dieu, présence vivifiante de Dieu, présence créatrice de Dieu, source de vie, comme en Christ. Cette présence de Dieu est montée dans le monde. Ensuite, nous dit le cantique, il est bon d'entendre les questions que nous pose le puits. Car oui, puisque l'on dit « répondez-lui à ce puits », il y a ce témoignage pour d'autres qui sont autour. Répondons ensemble aux questions que pose le puits, aux questions que nous pose Dieu en Christ. Répondons-y tous ensemble. Rassemblons les différentes facettes de notre être. Écoutons les réponses des autres pour que nous puissions ainsi répondre en vérité et en espérance à ce bon questionnement qui là aussi nous met en route, nous convertit. Il faut aussi s'unir, unir les forces dont nous disposons pour creuser, finalement, creuser la question, creuser le puits de la parole, le puits de l'écriture aussi. Alors un sceptre et un bâton de marche pour creuser dans le sable, c'est un peu comme d'essayer de manger sa soupe avec une fourchette. Ce n'est pas très efficace. Mais c'est comme un premier pas, finalement. C'est le premier pas que fait le fils prodigue pour retourner vers son père. C'est le premier pas de bonne volonté, de confiance, d'espérance. C'est un premier geste où l'on s'implique vraiment concrètement dans cette recherche, finalement, dans cette espérance. Premier geste, peut-être, d'action dans le monde de ce bébé roi qu'est le prince. Ou au moins, nous dit le texte, un début de bonne volonté, comme, oui, un puisatier qui fait un premier signe dans le sable, dans l'espérance d'une parole jaillissante de Dieu. Alors le texte des Nombres déroule alors en conclusion un itinéraire mystérieux que depuis des milliers d'années, les rabbins juifs et les pères de l'Église chrétienne lisent comme un cheminement spirituel plus que comme un cheminement géographique, qui n'a pas tellement de sens, en fait, si l'on regarde la carte. Un cheminement spirituel, avec Dieu, donc, qui nous précède, et par Dieu qui nous accompagne. Dans le désert commence ce cheminement, c'est à l'écart que l'homme se recentre dans le dialogue avec Dieu. Ensuite, ça passe par Matana, il a été donné. Oui, Dieu a donné son amour et l'eau de sa parole, et l'homme a donné sa foi et son chant. Ensuite, ça passe par Nahaliel, l'héritier de Dieu. Oui, avec Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Ensuite, ça passe par Bamout, pour la mort. Non la mauvaise mort, bien sûr, mais la mort de la source du péché et de la souffrance en nous, mourir avec Christ sur la croix. Pour arriver au sommet, nous dit le texte, où nous touchons à la terre promise, où nous touchons à la vie éternelle, en Christ, oui, la résurrection nous est donnée aujourd'hui. Amen.